L'invité de la rédaction avec Robin Hulin.
Sur notre antenne, Claire Brault et Vincent Osbert, porte-parole de la Confédération Paysanne. Bonjour.
Bonjour Robin.
Merci d'être avec nous. On va revenir en détail sur les actions et missions de la Confédération Paysanne. On estime que c'est le deuxième syndicat agricole au coude à coude avec Coordination Rurale. Les deux un peu écrasés, si on peut dire ça comme ça, par l'omniprésence de la FNSEA qui représente à peu près 55% des listes communes en France. Et donc à 8 mois des élections professionnelles. Alors quel est l'enjeu de ce scrutin? Est-ce qu'il y a plusieurs visions de l'agriculture et de son avenir qui s'affrontent aujourd'hui? Déjà pour commencer, Claire Brault, est-ce qu'on peut redonner et expliquer aux gens qui nous écoutent l'émission première de la Confédération Paysanne?
Oui, bien sûr. Du coup, la Confédération Paysanne est née dans les années 80. En réaction en fait à l'agriculture qui commençait déjà à s'industrialiser en face. Et du coup, nous, on prône une agriculture plus paysanne avec le grand mot de la répartition, en fait, la répartition du foncier, la répartition des aides, la répartition de l'eau. En fait, la répartition de tous les communs, entre autres, pour qu'il y ait un maximum de paysans et de paysannes qui puissent vivre de ce métier.
Parce que justement, vous dites que la Confédération Paysanne se dit davantage orientée vers les questions environnementales, qui défend donc une agriculture respectueuse de l'environnement.
Oui, et les questions sociales aussi.
Et les questions sociales. Et donc, oui. Vous dites que l'agriculture est à un tournant après des années de co-gestion stérile, comme pour le revenu des paysans. Si on se tourne vers vos principales revendications à ce sujet, vous parlez donc d'une plus juste rémunération par les prix plutôt que par les aides, c'est-à-dire?
Eh bien, déjà, je vais prendre la parole, excusez-moi. Si on commence donc à parler du revenu, d'abord, on va se remettre un peu dans le contexte. Au niveau des agriculteurs, on parle quand même, avant de revenu, on parle déjà de suicide. On en est à 2 par semaine ou 1 tous les 2 jours en fonction de comment on comptabilise. C'est la 3e cause de mortalité après les cancers et les maladies cardiovasculaires chez les agriculteurs. Et les raisons de ces suicides-là, c'est les revenus trop faibles, la charge de travail élevée et l'isolement. Alors, pour donner un ordre d'idée, on a quand même l'agriculture qui a un taux de pauvreté de 22%, des horaires qui font parfois 60, 70, 80 heures par semaine pour une rémunération qui fait 4 à 5 euros de l'heure. Donc, ça va pas du tout. Et malgré les aides directes qui font 75% du revenu. Donc, nous, on préconise une agriculture qui ne dépende pas uniquement des aides, qui soit rémunérée par son travail et par des prix.
Et en fait, on retrouve ça avec la loi des écologistes qui est passée la semaine dernière. Un grand merci à eux d'ailleurs d'avoir remis ça sur la table, qui est vraiment intéressante parce que du coup, ça permet de mettre l'agriculture, le prix agricole, pas comme la variable d'ajustement pour l'industrie en fait, et qui est vraiment des prix planchers. Ces prix planchers annoncés d'ailleurs par notre président, qui ne respecte pas trop. Et du coup, ces prix planchers-là seraient calculés en fonction du prix véritable de revient. Du coup, si un litre de lait vous coûte 1 euro, on vous le paye 1 euro ou plus, mais on ne vous le paye pas 90 centimes. Il y a la ministre de l'Environnement, la ministre de l'Agriculture, pardon, qui a fustigé un peu ce texte de loi en disant que c'était aux filières de faire les prix et non pas à la loi.
C'était digne des années soviétiques, c'était le mot du ministre.
Oui, ouais. Mais ça n'a pas de sens parce que quand on regarde par exemple Lactalis, il y a 3000 paysans qui se sont mis... Qui ont dit qu'ils avaient besoin, je crois que c'était 400, c'était quoi les
440, ils ont demandé 440.
Pour 1000 litres de lait, et Lactalis leur a dit très bien, et bien du coup on va vous en donner 425.
Donc c'est-à-dire qu'on est dans une société, selon vous, où ce sont toujours les lobbies, les industriels qui imposent le rythme?
Oui, toujours, c'est toujours la même chose. Et du coup en fait ce que prône le gouvernement, en plus avec la loi d'orientation agricole, on pourra en reparler tout à l'heure, mais on continue exactement dans la même direction.
Justement, sur ces questions de prix, quels sont les produits qui souffrent le plus ces dernières années? Vous avez parlé du lait il y a quelques instants pour les agriculteurs. Si on devait avoir une société avec des prix planchers, quels seraient les prix les moins impactés et qui seraient, entre guillemets, un peu sauvés aujourd'hui?
Alors déjà, avec tout ce qui est traité de libre-échange, il y a beaucoup la viande et la volaille qui est très impactée. Pour vous donner un exemple, les poulets de Loué, par exemple, eux, ils pratiquent déjà les prix planchers. Mais en fait, comme le prix en ce moment est très, très haut avec la conjoncture, les céréales, etc., du coup, ils font que deux lots par an au lieu de 3, ce qui fait qu'ils ne gagnent même plus d'argent en ce moment. Alors qu'à côté de ça, on a le traité de libre-échange avec le Chili qui prévoit 14 000 tonnes de volaille.
36 000 tonnes de volaille qui arriveraient en Europe grâce au traité de libre-échange avec le Chili.
Alors que du coup, les paysans français ne s'en sortent même pas Enfin...
Vous parlez de co-gestion stérile, justement. Qui c'est que vous pointez du doigt ?
Oh bah on sait tous qui est aux manettes dans l'oreille du gouvernement.
La FNSEA ?
Oui.
Les FDSEA à l'échelle locale ?
Oui, c'est ça.
Dans une de vos revendications, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de la juste reconnaissance du statut des femmes. Est-ce qu'il y a du retard qui a été pris sur ces questions d'égalité femmes-hommes dans cette profession, selon vous ? On estime qu'il y a 28% de femmes à la tête d'exploitation en France, en Sarthe, pardon, un tout petit peu plus haut que la moyenne nationale.
Alors oui, on a beaucoup de retard. Par exemple, ça fait que quelques années qu'on a le même nombre de jours, par exemple, pour congé maternité. Je crois que ça fait même pas 5 ans en fait qu'on a le même nombre de jours que les autres professions. Il y a plein de choses en fait qui sont vraiment en retard sur plein de choses. Et puis en fait le statut, en fait très longtemps les femmes ont pas eu un statut à la même hauteur que les hommes. En fait elles étaient juste conjointes collaboratrices. Et en fait ça faisait des. Maintenant on se retrouve avec des retraites très très basses pour les conjointes. Et ce qui fait que si l'homme part, et ben elles vont se retrouver avec des retraites quasiment nulles quoi.
Alors pour expliquer aux gens qui nous écoutent, de quelle manière l'agriculture finalement est un peu représentée ? Qui défend les agriculteurs ? Quels sont les enjeux un peu de ces élections professionnelles dont on parle beaucoup, qui auront lieu dans 8 mois, si je ne me trompe pas ?
Eh bien, en termes de répartition, alors excusez-moi, je cherche mes petites fiches, mais je ne retrouve pas la fiche que je voulais. Mais en termes de répartition, si on prend la Sarthe, par exemple, allez, je prends 2 petites secondes pour retrouver la fiche que je voulais récupérer. En termes de répartition sur la Sarthe, si on voulait s'intéresser, donc par exemple, à la souveraineté alimentaire dont on va certainement parler, en fait, aujourd'hui, en Sarthe, on produit déjà 570% de notre besoin sartois en termes de céréales. Donc en fait, en termes de céréales, on est largement couvert, alors qu'en face, on a par exemple les légumes, où on n'a que 43% de la production légumière en Sarthe qui est couverte, et en fruits, 71%. Et ça rejoint le niveau national, où on importe 70% de nos fruits, 30% au moins, alors j'ai plus le chiffre en tête, au niveau des légumes. Voilà, donc... En termes d'orientation agricole, si on voulait vraiment aller vers la souveraineté alimentaire, il faudrait aller vers ces productions-là plutôt que de la grande culture. Et quand on regarde le projet de loi, on en reparlera peut-être plus en détail tout à l'heure, on n'a pas véritablement de distinction ni de répartition entre le besoin et le volume entre le parcellaire.
Et comment est-ce que la voix des agriculteurs est représentée ? Est-ce que les syndicats sont suffisamment représentés dans la région et dans la Sarthe ? Quel est le rôle d'une chambre d'agriculture ? Un peu, ce sont des notions qu'on ne connaît pas forcément finalement.
Alors du coup, à la chambre, on va retrouver plein de choses différentes. En fait, c'est là où on va accueillir tous les nouveaux paysans déjà, tous ceux qui veulent s'installer. Du coup, ça, c'est déjà une question cruciale, parce que du coup, il y a la chambre qui s'en occupe, il y a aussi le GAB, il y a aussi la SIAP, il y a plein de la coopérative d'installation en agriculture paysanne, où le GAB, c'est le groupement des agriculteurs bio. En fait, il y a plein de façons d'y arriver, mais c'est principalement quand même encore par la chambre que tout passe, pour avoir les aides à l'installation, par exemple. Et en fait, du coup, il y a beaucoup de tris qui sont faits déjà à la chambre, de base. Et on va retrouver plein de chambres différentes. En fait, on va retrouver... Nous, on est représentés à la CDPNAF. Ça, c'est tout ce qui est au niveau environnemental, les forêts, etc. On a aussi la SAFER. La SAFER, elle permet de réguler un peu le foncier. Ça, c'est un gros problème. La SAFER, il faudrait qu'elle ait plus de sous pour qu'elle ait un vrai impact politique, pour éviter les agrandissements et justement favoriser les installations, etc. On est aussi à la CDI et la CDOA. En fait, ça, c'est les comités qui vont du coup dire est-ce qu'on donne de l'argent pour l'installation, est-ce qu'on accorde, est-ce qu'on favorise ça, etc. Du coup, en fait, il y a plusieurs lieux où on a un petit peu de pouvoir, même si c'est... Bah, du coup, en fait, c'est toujours le problème de... en fait, les chambres d'agriculture, il y a un gros souci de répartition, encore une fois.
De répartition, de représentation, finalement.
C'est ça, parce qu'en fait, le parti majoritaire va déjà avoir 50% des places. Et ensuite,
la FNSEA, qui a 55% aujourd'hui des listes.
Même si elle a que 1% de plus en termes de voix, si elle fait 25% et que le deuxième candidat fait 24%, elle a quand même 50% des places
d'assurer.
Comment expliquer cette place ? C'est un choix politique depuis des décennies ?
Oui, c'est ça.
Oui, et on a encore eu une loi récemment où, en termes de subventionnement des différents syndicats, il y avait une répartition financière avant de 75-25, c'est-à-dire que 75% des subventions et de votre financement venaient du nombre de voix que vous faisiez. Donc si vous faisiez 23, vous aviez 75% par rapport à 23. Si vous faisiez 24, vous aviez 75% par rapport à 24. Maintenant, ça a été changé récemment. Et donc la Confédération paysanne s'est mise face à ça. C'est pas passé au niveau des instances gouvernementales, je ne me souviens plus les organismes. Mais donc de 75-25, c'est passé à 50-50. C'est-à-dire que maintenant, la FNSEA, qui entre autres, qui fait un petit peu, un peu de point dessus, ils ont 50% de financement, mais les deuxièmes 50%, donc le passage de 25 à 50, c'est sur la représentativité dans les chambres. Donc en fait, à partir du moment où vous faites le premier score, vous avez, vous raflez, allez, on va dire 75% de la mise, quoi. Alors qu'avant, c'était déjà un minimum plus équilibré. Le poids de la présence en chambre n'était que de 25%. Maintenant, ce poids-là est devenu 50%. Donc ça va être clairement plus compliqué pour ceux qui ne sont pas le numéro 1 en tête, au niveau des têtes de liste. Alors, pas au niveau des têtes de liste, mais en termes de score.
C'est pour ça qu'on invite vraiment les gens à voter, parce que c'est vraiment très important en fait. Notre représentativité, elle passe aussi par les financements. Et si en fait les gens s'abstiennent, etc., en fait, c'est aussi par là qu'on va s'affaiblir, entre guillemets, parce que du coup, il faut quand même réussir à avoir des salariés, faire avancer la structure. Parce que nous, on est bénévoles, on est paysans, mais il faut quand même qu'il y ait des gens derrière pour réussir à faire avancer le...
Finalement, à l'image de certains scrutins nationaux pour les citoyens, est-ce qu'il n'y a pas une abstention parce qu'une partie des citoyens, des agriculteurs, n'y croient plus non plus aujourd'hui, ont le sentiment de ne pas être assez représentés et donc ne votent plus ?
Concrètement, oui, on peut avoir ce même sentiment-là que les élections de manière générale. Et on l'a vu aussi bien donc avec les Gilets jaunes de manière générale. On a vu aussi sur le mouvement des agriculteurs où il y avait un mot d'ordre, alors j'allais dire sur les ronds-points, on va dire c'est un petit lapsus, mais en tout cas, il y avait un mot d'ordre qui était « pas d'étiquette ». Pas de drapeau. Alors effectivement, sur les caméras et ainsi de suite, dans les médias, on voyait des drapeaux. Mais concrètement, sur place, c'était non, on ne parle pas de drapeau. On est tous là justement parce que beaucoup ne voulaient pas, ne se sentent pas représentés par la FNSEA. Alors, ils ne se sentent pas forcément représentés par nous non plus. Et donc, c'est là qu'il faut avoir des dialogues beaucoup plus ouverts. Mais concrètement, même si sur le terme d'électorat, ils font 55%, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou en tout cas, ils ont fait 55%, on peut s'attendre à ce qu'ils fassent moins parce qu'il y a quand même une sorte de ras-le-bol où effectivement les agriculteurs veulent que ça change. On leur a demandé de progresser, de faire beaucoup de progrès. Ils ont fait du progrès et malgré tout, ils font toujours 60, 70, 80 heures par semaine pour 4 à 5 euros de l'heure. Personne n'a envie de ça. Personne n'a envie de ça.
Quel est le lien finalement et la relation qu'entretient la Confédération paysanne avec la FNSEA aujourd'hui ?
Quel lien
Joker.
On entretient ?
Non, on n'est pas...
En fait, ça dépend sur certains sujets. De toute façon, on est amené à travailler de plus en plus ensemble parce qu'en fait, on a des sujets en fait, qui sont comme la gestion de l'eau, par exemple, qui va être mise dans les mains d'OUGC, des organisations uniques de gestion collective de l'eau. Et ça, du coup, on se partage. C'est les usagers qui doivent se partager l'eau ensemble. Et comme on est tous usagers de l'eau, en fait, petit à petit, on va être amené à travailler de plus en plus ensemble. Après, on travaille déjà ensemble au niveau de la SAFER, de la CDOA, de la CDPENAF,
différents organismes
dont j'ai parlé
auparavant. Ouais. On peut dire qu'entre guillemets, vous êtes en campagne en ce moment. Alors, vous consultez sur le terrain. Quelles sont un peu les principales préoccupations et revendications de vos collègues qui en ressortent le plus ?
Le revenu, principalement.
Oui,
c'est vraiment ça
vraiment
qui...
le premier.
Oui. Après, c'est encore une fois la répartition des choses, la répartition de l'eau qui est très compliquée, la répartition du foncier qui est très compliquée. C'est vraiment ça. Après...
Le revenu rassemble tout le monde. Après, effectivement, chaque métier apporte son lot de difficultés. Un éleveur, lui, sa difficulté, ça va être qu'il doit être présent tôt le matin avec son bétail et tard le soir, par exemple, pour la traite ou des choses comme ça. C'est pas du tout la même complexité d'un maraîcher aujourd'hui ou des maraîchers, d'ailleurs. On a plusieurs exemples de maraîchers qui, quand ils s'installent, finalement, quand ils veulent faire leur forage, on leur dit « Ah bah non, vous pouvez pas parce qu'en fait, il y a trop de voisins, il y a trop d'agriculteurs, entre autres, qui prennent trop d'eau, on sort trop d'eau, et la nappe ne se recharge pas, donc vous, on vous dit non. Voilà. Donc les problématiques qui vont suivre le revenu vont différer beaucoup ou pas beaucoup en fonction des métiers, mais vraiment le point central, c'est le revenu.
Alors parlons un petit peu de l'actualité maintenant. Quel regard vous portez sur ce mouvement social des agriculteurs depuis bientôt 3 mois ? On a vu les différentes sensibilités politiques et visions de l'agriculture se rejoindre, parfois s'affronter. Vous parliez de drapeaux, c'est vrai qu'on a vu des couleurs finalement, des sensibilités politiques qui ont été très pointées du doigt parfois aussi, certains peut-être liés directement à des partis. En tout cas, quel regard vous portez sur ce mouvement social ? Est-ce que c'est le symbole d'une profession et d'une partie de la société qui n'est jamais écoutée ? C'est un éternel recommencement ?
Je dirais un peu oui, cet éternel recommencement où on a envie qu'il se passe quelque chose et en fait, à la fin, ce qu'on a obtenu, la Confédération paysanne a d'ailleurs invité à prolonger en fait ce mouvement parce qu'en fait, ce qu'on a obtenu, c'était complètement contre-productif. L'affaiblissement des normes environnementales, favoriser les méga-bacilles, l'agriculture industrielle, encore une fois.
Et ça ne résout pas le problème du revenu.
En fait, ça n'adresse pas du tout le problème principal au final.
Justement, le Premier ministre avait fait plusieurs annonces, 62 engagements, des aides de plusieurs millions pour les éleveurs avec des bêtes atteintes de certaines maladies, pour les victimes d'intempéries, et aussi, comme vous le disiez, l'abandon du plan Ecophyto, voulu par la FNSEA, l'abandon de ce plan qu'elle voulait, qui devait mettre en place une réduction des pesticides dans les années à venir. Vous regrettez cette décision ? C'est dramatique selon vous ? Ou parfois on est aussi obligé de faire certaines restrictions ? Quel est votre regard un peu ?
Le mien, clairement, c'est clairement un drame parce qu'on est déjà... en fait, si on regarde déjà l'état de l'eau, l'état des sols, etc., on est déjà face à un effondrement de la biodiversité, un épuisement des ressources naturelles. Pour moi, ça n'a aucun sens le fait de ne pas avoir d'éco-phyto. Au bout d'un moment, je suis d'accord que l'économique a un sens, mais si demain on ne peut plus produire parce que tout est pollué, ça n'a plus aucun sens. Quoi.
Moi, je vais me permettre un complément là-dessus. On aime bien diviser les agriculteurs sur cette question-là. Ou en tout cas, pas forcément les diviser, mais les mettre dans deux cases. Est-ce que tu es pour la protection de l'environnement ou est-ce que tu es contre ? La question, elle est beaucoup plus difficile que ça. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec des agriculteurs qui sont en conventionnel, qui ne cherchent pas spécialement à s'installer en bio. Et eux, en fait, ils sont habitués à ce qu'on leur interdise des molécules. On se rend compte qu'elles sont mauvaises pour la santé humaine, pour la santé du sol, pour l'eau. Ils ont l'habitude, en fait, qu'on interdise des molécules. Ils passent à autre chose et ainsi de suite. En fait, ils sont d'accord. La difficulté, c'est pas qu'ils sont contre. Ils sont pas contre, en fait, au niveau du plan Ecophyto. Eux, leur difficulté, c'est qu'ils sont mis en concurrence avec des États qui ne respectent pas du tout ça. On a eu une conférence de l'eau il y a quelque temps au niveau de la Confédération paysanne et on a eu une comparaison des taux de glyphosate, entre autres, entre la France, l'Europe et le Brésil. En fait, il y a un rapport de 5000. C'est-à-dire que déjà, le tiers quasiment du Brésil ne contrôle même pas ses eaux souterraines en termes de... Enfin, en tout cas, son eau potable, il ne le contrôle pas. Donc, c'est sûr qu'eux, en fait, ils sont open bar, quoi. Ils amènent n'importe quel produit comme ils veulent. Donc, les Français, en fait, les agriculteurs français ne sont pas systématiquement contre l'utilisation ou en tout cas qu'on les emmerde sur la réglementation. Mais ce qu'ils veulent, c'est que la règle elle soit partagée et pas mis en concurrence avec des pays qui font clairement n'importe quoi, ou en tout cas qui n'ont aucune limite.
Donc on en arrive à parler de nos voisins étrangers, donc à la responsabilité de l'Europe, notamment à l'approche de ces élections européennes. On parle évidemment beaucoup de la PAC, cette fameuse politique commune agricole. Pour expliquer très rapidement aux gens qui nous écoutent, puisque c'est un peu complexe, il y a deux piliers, les aides directes aux agriculteurs et ce qu'on appelle le développement rural, qui est un peu plus flou et qui a des mises en place un peu différentes. Aujourd'hui, comment vous vous positionnez sur la PAC ? Est-ce qu'il faut la changer en profondeur ? Ou bien ce sont juste des mesures qui manquent pour assurer son juste équilibre ?
Pour moi, c'est des choses en profondeur, parce que du coup, en fait, c'est toujours là. Enfin, je pense que beaucoup ont déjà vu le film là-dessus, avec les différentes... comment la PAC est partagée. Et encore une fois, en fait, c'est toujours les plus gros qui vont avoir plus et les plus petits qui n'ont rien. Enfin, par exemple, les maraîchers et maraîchères, comme je suis... Il y a quelques années, ils ne faisaient même pas de déclaration PAC parce qu'en fait, ça ne servait à rien. Ils récoltaient quelques centaines d'euros. Alors que finalement, dès qu'on a un peu d'hectares...
Parce que les aides sont proportionnelles par rapport aux hectares qu'on a.
C'est
une grosse partie, oui.
Et nous, notre revendication, c'est vraiment que ça soit aux... Alors, peut-être aux 52 premiers hectares, et puis après, ça n'a plus aucun sens. Et que ça soit vraiment plus l'activité humaine et non pas les hectares et les machines qui soient subventionnées.
Pour revenir un petit peu aux questions environnementales dont on parlait il y a quelques instants, que ce soit par son impact, ses normes, les divisions au sein de cette profession ou même par la pression des lobbies sur les différents gouvernements, est-ce que vous avez le sentiment que dans une puissance mondiale et agricole comme la France, il est réellement possible de mettre en place une agriculture qui prend en compte ces questions environnementales et ce virage écologique, ou malheureusement c'est impossible ?
Alors moi j'ai, alors c'est, ça c'est mon cas personnel, c'est pas forcément la Confédération paysanne qui est derrière, mais tous ceux qui s'intéressent un peu à la question, et on l'a vu avec la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé au début de la guerre en Ukraine, début 2022 ? Il y a eu un gros, alors ça n'a pas été une crise particulièrement, mais en tout cas tout le monde a dû en entendre parler, que ça criait un petit peu dans les fermes, parce que le prix du gaz augmentant, on s'est retrouvé avec tout le prix des engrais azotés qui ont explosé. Un petit peu comme les factures d'électricité récemment, enfin en tout cas dans la continuité. Et ben en fait, tous les produits phytosanitaires qu'on utilise, en majorité, sont dépendants du pétrole et du gaz et des énergies fossiles. Voilà, quand on ouvre un peu les yeux, quand on lit un peu des bouquins, on voit qu'on va avoir de moins en moins de pétrole, en tout cas à un moment donné, il va y en avoir de moins en moins, et donc le futur, dans 100, 200, 300 ans, ou combien d'années, comme vous voulez, il n'y aura plus de phyto, il n'y aura plus d'engrais chimiques, il n'y aura plus tout ça. Donc la bio, la protection de l'environnement, de toute façon, on ne va pas y couper, on va être obligé de le faire plus tard. Donc la question, c'est à quel moment on va s'y mettre, quoi ? Est-ce qu'on attend le dernier moment, une fois qu'on a tout explosé, que les sols, on ne peut plus boire l'eau potable, et ainsi de suite ? Qu'est-ce qu'on attend, quoi ? En fait, nous, ce vers quoi on milite, c'est qu'on en tienne de plus en plus compte et justement que les agriculteurs soient aidés à faire leur transition. Ça a été dans un sondage, ça, je me permets une petite touche supplémentaire. La FNSEA a fait un sondage, a commandité un sondage avec, alors c'était quel organisme, je ne me souviens plus. Donc ils ont rémunéré un organisme de sondage pour demander aux agriculteurs quels étaient les sujets principaux pour eux. Et ce n'est pas très vu, hein, c'est 2022 ou 2023. Et donc ce qui est sorti, donc, c'était le revenu. Mais en troisième ou quatrième sujet, c'était la demande d'être accompagné pour faire la transition écologique. Donc en fait, il ne faut pas mettre tous les agriculteurs de côté, ils demandent un accompagnement. Et donc l'accompagnement, ça, c'est le plan éco-phyto, c'est des plans comme ça, de dire on n'arrête pas du jour au lendemain, c'est comment on fait en sorte de s'en passer. Et ça, c'est important de le maintenir. Il faut accompagner les agriculteurs, et ce n'est pas juste en disant on met 200 millions d'euros sur la table et démerdez-vous. Ce n'est pas comme ça que ça peut marcher. Mais c'est pas coordonné en fait.
Et c'est pas cohérent surtout.
Claire Brault et Vincent Hosbert, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci,
merci
vous.
Beaucoup.
Vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne en Sarthe.
L'invité de la rédaction avec Robin Hulin.